Bonjour, je m'appelle André Ponce et je vous propose de me suivre à la découverte des grandes fontaines de Toulouse. La ville est là, tumultueuse, bruyante, agitée. Mes pas me mènent à la croisée des rues, là où convergent les pas des plus pressés, où se recoupent les itinéraires des piétons, des cycles, des skates, des affairés et des promeneurs. Arrêtons-nous. Vidons nos esprits jusqu'à percevoir le chuintement des filets d'eau, le sifflement des jets, le clapotis de l'eau dans le bassin. Nous nous trouvons boulevard Lazare Carnot, au centre-ville, devant la fontaine Roland. Cette fontaine, constituée d'un bassin circulaire, est un hommage à la gloire des combattants. Leur courage et leur dévouement est illustré ici par un passage de la chanson de Roland, datant du XIe siècle. Cette chanson de Roland a elle-même été composée d'après le panégyrique de Charlemagne, la Vita Caroli, datant de l'an 830. La fontaine que nous voyons est sculptée par Jules-Jacques Théodore Dominique Labatut, né à Toulouse en 1851 et décédé en 1935. Ce que nous percevons dès le premier regard, c'est qu'il s'agit d'un groupe sculpté représentant Roland de Roncevaux. Il se tient péniblement debout sur des amas informes, eux-mêmes situés sur un conglomérat de rochers. Il tient un olifant à la main gauche, l'olifant étant le corps de guerre dans lequel on soufflait pour donner l'alerte. L'ensemble est sculpté dans un marbre blanc soutenu par un amas rocheux. Il s'agit là d'une œuvre importante, composée dans un bassin circulaire de près de 6 mètres de diamètre. Lorsque nous nous approchons de ce bassin, nous pouvons remarquer que la mise en scène dans l'espace se fait de façon hélicoïdale. C'est donc en tournant tout autour de la sculpture que la signification complète de cette œuvre se dévoile. Souvenons-nous du contexte historique de l'épisode relaté par cette sculpture. Après une croisade de 7 ans en Espagne, l'empereur Charlemagne revient en France, laissant l'arrière-garde protéger son passage. Informé par une trahison, 400 000 cavaliers sarrasins attaquent et défendent ses hommes. Roland et Olivier se battent pour l'honneur féodal et l'amour de la douce France jusqu'à leur dernier souffle. C'est cet instant dramatique que le sculpteur a choisi de représenter pour honorer les combattants de toutes les guerres. Au-dessus des rochers de la fontaine, représentant les montagnes pyrénéennes, nous voyons un empilement de fragments d'arbres, de côtes de mailles, disposés de telle sorte que nous sommes obligés de tourner autour de la sculpture pour les dénicher. Et ce mouvement rotatif nous amène à découvrir progressivement un corps qui gît au sol. Nous n'en voyons que la partie inférieure, enseveli dans les rochers. Nous poursuivons notre rotation. Il s'agit d'Olivier. Olivier le sage, ami et beau-frère de Roland. Nous voyons apparaître maintenant la partie supérieure de son corps. Le dos musclé, le poing gauche serré, le visage tombant, s'enfonçant progressivement dans le sol. Les forces l'abandonnent. Il meurt. Poursuivons notre rotation. Alors que toute la base de la sculpture n'est plus qu'un entassement informe et désormais inerte, émerge le corps de Roland. C'est la clé de voûte de l'œuvre. La partie inférieure du corps est soutenue par les rochers, car Roland n'a plus assez de force pour se tenir par lui-même. Il est épuisé d'avoir frappé l'ennemi. Toute la partie inférieure de ce corps représente le Roland vaincu, le Roland résigné à la mort. Les jambes et le bassin semblent se disloquer sous la torsion de la douleur et de l'anéantissement. L'autre partie du corps, dressée vers le ciel, soutenue par le bras droit qui tenait l'épée d'Urandal, représente Roland l'orgueilleux, le preux, celui qui a refusé d'appeler à son secours le gros de l'armée de l'empereur, malgré les supplications d'Olivier. Il vient là d'accomplir sa destinée de valeureux chevalier. Le visage est tourné vers le ciel et la blancheur du marbre nous le présente livide. L'image est saisissante, poignante. Nous ne pouvons pas exclure la volonté du sculpteur de nous livrer là une ressemblance avec le Christ agonisant, les yeux mi-clos tournés vers ses dernières pensées, celle d'avoir accompli sa destinée. Le bras gauche, levé, plus haut que le visage, tient l'olifant serré. C'est le point culminant de cette sculpture, construite en forme de cône. L'olifant est là, mais aucun son ne sortira plus. Nous pouvons maintenant comprendre la totalité de la scène. Le visage à terre, Olivier s'est couché, mourant. Le dos brisé par l'ennemi. La lance qu'il tient dans la main est rompue. Le gonfanon blanc, vermeil et bleu s'est décoloré. Le sol est jonché de piques, de pieux, de boucliers et de selles. Au rugissement de Montjoie-Saint-Denis, le preux de l'arrière-garde vient de livrer son âme à Dieu. Dernier survivant, Roland, le fougueux capitaine de Charles le Grand, se redresse, le regard tourné vers l'armée païenne. Le devoir accompli, il peut mourir, conquérant, serein. Il porte l'olifant à ses lèvres et, en grande douleur, la bouche en sang, souffle, sonne le secours, souffle encore jusqu'à se rompre la tempe. Le corps résonne jusqu'à 30 lieues. Tandis que juché sur ce tertre aigu, purifié par la dernière épreuve de fidélité à son suzerain, il s'en remet à Dieu. Nous sommes sur la place dont le nom exact est « Place du Jardin des combattants ». Mais devant une telle fontaine, il est aisé de comprendre pourquoi les Toulousains l'appellent « Place Roland ». Je m'appelle André Ponce, je suis promeneur, je déambule de place en fontaine.
Altitude 93.5.
Vous aimez déambuler? Alors retrouvez-moi en librairie dans l'ouvrage Les Grandes Fontaines de Toulouse, paru aux éditions Empreintes. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle fontaine.